des histoires et des traditions de France et du monde entier. Aujourd'hui, nous allons nous rendre à nouveau au Portugal pour découvrir la troisième partie de ce secret de Fatima. Ce sera l'importance de ce secret pour le XXe siècle et le début du XXIe siècle que nous allons découvrir. Du 13 mai 1917 au 13 octobre 1917, trois petits pastoureaux virent Notre-Dame à Fatima. Cela révolutionna le monde entier en ce XXe siècle. Il y avait, en plus de ces apparitions, du miracle du soleil qui dansa dans le ciel devant 70 000 personnes le 13 octobre 1917, des secrets qui seront dévoilés spécialement à Sœur Lucie, qui est toujours vivante, qui vit au Carmel de Coimbra, à côté de Fatima, et qui, à près d'un siècle, a ainsi été témoin de tous les événements du XXe siècle, avec la Russie, qu'annonce la Vierge Marie, qui va sombrer dans un matérialisme athée, répandre ses erreurs à travers le monde entier, faire des dizaines de millions de morts. C'est aussi dans le deuxième secret de Fatima que nous avons découvert la deuxième partie du secret, cette Russie auquel la Vierge promet la conversion si on la consacre, si le pape la consacre avec les évêques du monde entier au cœur immaculé de Marie. Et c'est ainsi que dans la troisième partie, il y aura une précision qui va changer la vision du pape et du monde sur ce secret de Fatima. Ce secret ne sera révélé que le 13 mai de l'an 2000 à la demande du pape Jean-Paul II, qui considérera qu'il a été concerné directement par ce troisième secret, car en 1981, il va en prendre connaissance après des événements particulièrement marquants pour lui. Et à partir de là, il va réaliser ce troisième secret et la face du monde va être changée. Voilà ce que dit Sœur Lucie de ce troisième secret qu'elle a consigné par écrit en 1944. Après les deux parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence !» Et nous vîmes, dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir devant. Un évêque vêtu de blanc, nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père, divers autres évêques, prêtres, religieux, religieuses, montés sur une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chêne-liège avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville, à moitié en ruine, et à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de classe et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs avec lesquels ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Voilà ce que dit Sœur Lucie de cette troisième partie du secret de Fatima. Eh bien voilà ce qui s'est passé aussi le 13 mai 1981. Un tireur embusqué tire sur le pape Jean-Paul II. Il est touché quasiment à mort, car le tireur était à quelques mètres de lui seulement. Sa voiture part en direction de l'hôpital Gemelli à mort, à Rome. Il faudra 5 heures pour qu'une opération permette d'extraire la balle qui est passé à quelques millimètres d'une artère vitale. La trajectoire allait droit dans cette artère. Et au dernier moment, la balle a comme dévié dans le corps du pape Jean-Paul II. Il lui faudra plusieurs mois pour se remettre de cet attentat. Mais sur son lit d'hôpital, il s'est aperçu d'une chose quand il reprend connaissance. C'est que cet attentat a eu lieu un 13 mai, le 13 mai 1981. Son agresseur, c'est un Turc, Ali Aka. On apprendra rapidement que ce Turc d'extrême droite, en fait, a agi sur ordre des services secrets communistes. Il a été mené à Rome par les services secrets communistes de Bulgarie, qui lui ont donné l'arme, qui l'ont mis sur la place Saint-Pierre, avec pour mission de tuer ce pape venu de Pologne, qui gênait le pouvoir soviétique, car il avait annoncé que si l'on attentait à la vie ou à la liberté du peuple polonais, qui essayait de prendre sa liberté avec le syndicat Solidarité, né en 1979 après un voyage du pape Jean-Paul II en Pologne, il avait annoncé qu'il viendrait lui-même en Pologne pour se mettre devant les chars soviétiques. Or, on avait l'intention, après avoir cédé en apparence devant la création de ce syndicat indépendant Solidarnosc avec cet électricien de Dansk, Lech Walesa, on avait l'intention d'éliminer le syndicat Solidarité et ce début de liberté, ce printemps de Pologne. Car ça faisait tache d'huile et ça faisait mauvais exemple pour tous les autres pays communistes à travers le monde. On voulait éliminer celui qui était le principal protecteur de ce syndicat et de la Pologne, ce fils de Pologne devenu pape en 1978, le 16 octobre précisément. Et c'est pourquoi on avait recruté quelqu'un avec lequel on avait quelques connivences, puisque les groupements d'extrême droite turcs se financèrent en faisant passer de la drogue par les pays de l'Est pour abêtir et abrutir la jeunesse occidentale. Les pays communistes n'y voyaient aucun inconvénient, au contraire, les jeunes d'Occident ayant été ainsi asservis à cette drogue, et en passage, ils prélevaient leur pourcentage. Et c'est pourquoi il avait été envoyé ce 13 mai 1981 pour tuer le pape. In extremis, le pape Jean-Paul II considérera que c'est quasiment un miracle, que c'est la Vierge Marie qui a détourné la balle. C'est lui dont il est question dans ce troisième secret, il en est sûr. Lui, cet évêque vêtu de blanc, ce Saint-Père, sur lequel on va tirer des coups de feu, il va tomber comme mort. Et autour de lui, de nombreux évêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, en grand nombre, sont martyrisés. Car cette vision se passe sur l'ensemble du XXe siècle, se termine peut-être à la fin du XXe siècle, mais c'est effectivement les plus grands martyrs que l'on ait connus depuis 20 siècles, qui auront été effectués sous l'effort redoublé de ce matérialisme athée qui a envahi la Russie et le monde entier. Jean-Paul II décide de réaliser cette demande de la Vierge pour que la Russie se convertisse et qu'il y ait un temps de paix pour le monde. Le 13 mai de l'année 1982, il va à Fatima pour remercier la Vierge de l'avoir sauvée et il consacre le monde entier au cœur immaculé de Marie. Entre-temps, le syndicat de solidarité, puisque le pape Jean-Paul II était resté en difficulté et en convalescence pendant de longs mois, avait été interdit. C'était le 2 décembre 1981, puisque Jean-Paul II ne pouvait pas venir facilement. Mais peu de temps après cette consécration, on allait être obligé de relâcher Lech Walesa et tous les autres responsables de solidarité. On allait être obligé de négocier avec l'Église, d'ouvrir les portes, comme l'avait demandé Jean-Paul II dans son premier voyage, ouvrez grandes les portes au Christ, les portes de la liberté. Il demandera à Sœur Lysie si c'est effectué, si cette consécration est valide, qu'il a faite le 13 mai 1982, un an après son attentat. Elle dira non, parce qu'il fallait y associer tous les évêques du monde entier. Or, Jean-Paul II leur avait demandé, mais quelques jours auparavant, il n'avait pas pu les toucher tous. Il va réeffectuer cette consécration en 1984, pendant une année sainte spéciale qu'il avait décrétée à Rome. Il va faire venir la Vierge de Fatima, sa statue, à la basilique Saint-Pierre. Et là, il aura prévenu, le 8 décembre 1983, les évêques du monde entier, en leur demandant de s'associer pour le 25 mars à cette consécration au cœur immaculé de Marie, de l'ensemble du monde, et particulièrement, bien entendu, de la Russie, puisque c'est selon ce qui a été demandé à Fatima, que cela va se réaliser. Le 25 mars 1984, cette consécration aura lieu à Rome par le pape Jean-Paul II, avec les évêques du monde entier qui sont censés faire cette consécration dans leur propre diocèse. Ceci pendant cette année sainte pour les 1950 ans de la mort du Christ sur la croix. Et cette fois-ci, cette consécration sera reconnue comme valide par Sœur Lucie de Fatima. Et à partir de là, les événements vont s'enchaîner dans le monde pour la fin du communisme en Russie et le renouveau des libertés, et notamment de la liberté religieuse dans le monde entier. Et voici le plus célèbre chant de Fatima, l'Ave Maria de Fatima, précédé du carillon de la basilique de Fatima, le tout chanté par une chorale de Fatima en portugais. Thank you. Cette troisième partie du secret de Fatima révélée à Jean-Paul II sur son lit de douleur de l'hôpital Gemelli de Rome après cet attentat du 13 mai 1981 va faire accélérer la réalisation de ce qui est annoncé à Fatima par Marie en 1917 et les années suivantes. 1982, le 13 mai, Jean-Paul II rend hommage à Marie à Fatima, première consécration qu'il va faire du monde au cœur immaculé de Marie. 1984, le 25 mars, pendant cette année sainte, le jour de l'Annonciation, fête mariale, il va faire cette consécration renouvelée à la demande de sœur Lucie, la dernière voyante de Fatima, et cette fois-ci en union avec les évêques du monde entier. Même les évêques orthodoxes de Russie auront eu vent de cette consécration et l'auront faite eux-mêmes dans leur propre pays, ce qui réjouira beaucoup Jean-Paul II. Et effectivement, tout va s'accélérer. Après que le syndicat Solidarité ait été interdit, ses responsables, dont l'Eshvalesa, enfermés, on va les libérer. Il va y avoir un accord avec l'Église pour des élections plus libres en Pologne, quelques années plus tard. C'est aussi le temps de Gorbatchev et de la Glasnost, cette volonté d'une certaine ouverture de l'Union soviétique. Et nous en arrivons rapidement, car tache d'huile tout cela fait, tout cet esprit qui part de Pologne avec Jean-Paul II et Lech Walesa va faire tache d'huile dans l'ensemble du monde communiste. De toutes parts, on veut aussi avoir des libertés. De toutes parts, on n'a plus peur. Et c'est en 1989 que le mur de Berlin s'effondre. Il n'y a pas de réaction de la part du grand frère soviétique. On laisse s'effondrer le mur de Berlin. On laisse la Pologne avec des élections semi-libres. On laisse le rideau fer exploser. 1989, c'est la fin du communisme dans la plupart des pays d'Europe de l'Est. Ceci sans effusion de sang, comme on dirait à Prague, une révolution de velours. Quelques années auparavant, le régime soviétique étant aux abois, on avait envisagé en 1983-1984 encore une invasion de l'Europe occidentale et d'user éventuellement de la bombe atomique. Ces espoirs s'évanouissent. Nous sommes en 1991. Les pays de l'Est sont libérés, sauf l'Union soviétique. C'est à Częstochowa, le haut lieu marial de Pologne, que le pape Jean-Paul II convoque les jeunes du monde entier, d'Occident comme d'Orient. Ils viennent par millions. Près de 3 millions de personnes se réuniront le 15 août à Częstochowa pour les Journées mondiales de la jeunesse. Aux portes de l'Union soviétique. Ce même mois, après avoir renouvelé cette consécration à Częstochowa, à la Vierge Marie, ce même mois, Gorbatchev est emprisonné. Un coup d'État des communistes orthodoxes qui veulent revenir en arrière et arrêter cet effondrement du communisme. Boris Eltsine se retrouve sur les chars à Moscou. Le coup d'État s'arrête, prend fin, on libère Gorbatchev. Et cette même année, 1991, le 25 décembre, le jour de Noël, on signe à Moscou, avec Boris Eltsine et les autres présidents des diverses républiques de l'Union soviétique, la fin de l'Union soviétique. L'Union soviétique disparaît, apparaissent la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et d'autres républiques indépendantes. C'est la fin du communisme soviétique, c'est la fin de l'Union soviétique, sans effusion de sang, ceci exactement 10 ans après l'attentat contre le pape Jean-Paul II et quelques années après simplement ces deux consécrations qui ont été faites au cœur immaculé de Marie selon sa demande à Fatima. de 1917 à l'an 2000, car c'est en l'an 2000 que va être révélé le troisième secret par Jean-Paul II qui va faire un nouveau pèlerinage à Fatima pour remercier la Vierge. Il aura donné sa balle, qui est incrustée maintenant dans la couronne de la Vierge de Fatima. Il aura aussi béatifié Francisco Jacinta, les deux cousins de Sœur Lucie, en présence de Sœur Lucie, ce 13 mai de l'an 2000, jour anniversaire des apparitions de Fatima, jour anniversaire de l'attentat de la place Saint-Pierre, en l'an 2000, année du jubilé de l'an 2000, pour l'entrée dans le troisième millénaire. Et là, il va révéler le troisième secret, dire son importance pour son pontificat et comment il a été réalisé. Tous les documents seront publiés cette même année par les instances officielles du Vatican. De 1917 jusqu'à l'an 2000, les différents messages et les différents secrets de Fatima auront été distillés et auront changé la face de la Terre. Les deux tiers de l'humanité étaient sous le joug de cette tyrannie du matérialisme athée jusqu'en 1989 et depuis, tout cela s'est effondré. La face de la Terre a changé. En Pologne aujourd'hui, on sait aussi cela. Dans tous les pays qui étaient ex-communistes, on sait cela. Il est important que le monde sache quelle est l'importance de Fatima et de son influence sur le XXe siècle. C'est ainsi que se termine cette émission sur ce secret de Fatima. À très bientôt.